paternel, de vous saluer tous de nouveau. Soyez encore les bienvenus, chacun, vous qui êtes ses enfants. Et ce matin, cette parole que j'ai à cœur de partager avec vous va, là encore, est-ce qu'il y a moyen de baisser un peu cet effet bizarre là, de la grâce de Dieu. Et il y a peut-être, pour ceux qui en ont souvenir, près de un an, j'avais, ici même, alors que je prêchais, je vous avais emmené en balade sur la voie romaine. Alors peut-être, voilà, quelques souvenirs remontent à ceux qui étaient présents, mais sur ces quelques beaux pavés de l'épître de Paul aux Romains, et nous avions constaté ensemble que le salut qui nous est offert par Christ ne pouvait pas s'arrêter simplement à une belle confession du nom de Jésus. Mais que cette foi en lui se devait d'être conséquente, devait s'articuler avec la transformation que notre Créateur désire opérer en nous par son Esprit. Voilà, je résume, hein, voyez, en une minute on peut tout dire ce qu'on a fait en une demi-heure il y a de cela un an. Mais en quelque sorte, et pour paraphraser notamment un autre pasteur, alors il n'est plus là aujourd'hui, mais il est assez connu, il s'appelait Dietrich Bonhoeffer, il était allemand, il avait œuvré et servi le Seigneur sous le régime nazi. Il avait aussi comploté un petit peu contre un certain Adolf. Bon, bref, laissons ça de côté, c'est l'histoire. Mais nous avions vu que nous étions bien sauvés par grâce, mais d'une grâce qui contient une exigence forte, celle de la sanctification en nous. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas reprendre cela, mais vouloir aller un peu plus loin et regarder à un autre accent, mais qui va s'appuyer là-dessus. J'aimerais, d'une certaine manière même, retourner le questionnement et ainsi vous demander, puisque c'est la question que je vous pose, qu'on se pose ce matin, pour être sauvé, un chrétien doit-il obligatoirement être transformé? Alors, vous avez peut-être déjà la réponse au vu de ce que j'ai pu annoncer, mais je crois qu'il ne faut pas se satisfaire d'une réponse trop facile. Et si c'est le cas, transformer, mais jusqu'où? Est-ce qu'on doit avoir des ailes qui nous poussent dans le dos, histoire de pouvoir monter auprès de notre Père Céleste? J'exagère. Mais je repose la question, celle que je vais vous adresser ce matin. Pour être sauvé, un chrétien doit-il obligatoirement être transformé? Et si oui, jusqu'où doit-il être transformé, globalement? Alors, on ne va pas juste s'arrêter à des questions, on va aller aussi lire à sa parole et s'appuyer sur notamment un texte que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Donc Épître aux Galates, chapitre 5, et on ira lire quelques versets. Donc Épître aux Galates, chapitre 5, et nous irons lire ensemble les versets 16 à 25. Donc Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Je vais lire dans la traduction que j'apprécie le plus souvent, la Bible du Semeur. Alors peut-être pour ceux qui ont d'autres habitudes et qui lisent la Seconde ou d'autres traductions, vous n'allez peut-être pas reconnaître une expression caractéristique de ce passage. J'y reviendrai après. Mais écoutons surtout sa parole. Donc Galates 5, les versets 16 à 25. Paul s'exprime ainsi. « Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. » Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'avais déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Et je m'arrête là. Tout à l'heure, juste avant de commencer notre lecture, je vous ai dit, voilà, j'ai cette traduction, la Bible du Semeur, qui ne retient pas l'expression qu'on entend très souvent et qui, je crois, n'est pas toujours bien comprise, il me semble. Et que vous avez peut-être trouvé dans votre Bible, pour ceux notamment qui sont attachés à la version second. Au verset 17, je le reprends dans ma traduction. Car la chair a des désirs contraires, pas dans ma traduction, mais dans une autre traduction. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Là où moi, tout à l'heure, j'avais, car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Pas tout à fait la même chose. Mais je me permets juste un aparté avant de rentrer après dans le vif du sujet, mais la chair, cette expression la chair que l'on entend ici chez Paul et parfois ailleurs, mais très rarement, n'est pas toujours forcément bien comprise. Le mot grec, que l'on traduit par chair, sarx pour les Grecs, hein, pour ceux qui aiment le grec, utilisé par Paul, retenez-le bien, n'a déjà aucune connotation sexuelle. Je suis sûr que vous en avez peut-être entendu sous cet angle-là. Or, c'est une erreur. Il n'est pas là non plus pour désigner une partie de notre être qui serait opposée à une autre partie de notre être plus spirituelle. Ça n'est pas ça que Paul évoque ici en utilisant le mot « chair ». Notez d'ailleurs que Paul oppose la chair au régime de la loi. Ou l'articule. Donc il ne peut s'agir non plus de notre nature dite pécheresse ou de notre inclination au mal. Alors qu'est-ce que c'est que la chair selon Paul? Pour ceux qui sont attachés à cette expression et l'ont toujours en mémoire. Juste un peu avant, on ne va pas aller le lire, mais je vais vous le dire moi, en Galates 3, donc le même épître, le même auteur, Paul toujours, dit ceci, « Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair ?» Qu'est-ce qu'il dit là? En dénonçant la volonté de certains Galates, à qui il s'adresse, de parvenir à la perfection en imposant notamment la circoncision à des chrétiens d'origine païenne. Il dénonce en fait quelque chose de simple, à mon sens. Ce principe de vie qui vise la justification divine, d'être juste devant Dieu par l'obéissance à la loi. C'est ça qu'il dénonce dans toute l'épître aux Galates, d'une certaine manière. Et ici, pour cela, il dit « chair ». Ou pour le résumer, l'homme vivant selon la chair, chez Paul, désigne l'homme qui recherche même la vie éternelle par sa propre obéissance, par le désir de parvenir à une stricte obéissance de la loi. L'homme selon la chair, c'est ça. C'est pas l'homme charnel qui croit ceci ou cela, ou qui s'abandonne à trop de sexualité. Ça n'est pas ça. C'est l'homme qui espère en ses propres forces pour obéir à Dieu et enfin devenir parfait et être justifié. C'est ça l'homme selon la chair. C'est l'homme qui ne veut même pas compter, pour le dire autrement, sur la grâce de Dieu. Et là, je reviens sur le sujet qui nous intéresse. Voilà ce qu'est la chair qui s'oppose à l'esprit. L'homme selon la chair, qui vit selon la chair. On clôt la parenthèse. Désolé de l'avoir faite, mais il me semblait important parce que je crois que ça n'est pas toujours bien compris, à mon sens. Revenons maintenant plus encore au sujet que je veux partager avec vous. Paul, dans ce que nous avons lu, dans ce court passage de l'Épître aux Galates, affirme une chose, qu'une vie non transformée, par Dieu bien évidemment, n'a pas accès au royaume de Dieu. Et là, c'est une réalité qui peut effrayer, qui paraît cruelle. Mais effectivement, Paul ici affirme simplement qu'une vie non transformée ne donne pas accès au royaume de Dieu, à la vie éternelle, si vous le préférez. Et si Paul affirme bien cela, ça n'est pas sans poser au moins une difficulté. En effet, à l'entendre ainsi, on pourrait alors comprendre que seuls parmi nous les parfaits seraient sauvés. Qui est parfait? Je ne lève pas la main, hein. Retenez-le bien déjà. Nous ne le sommes pas. Ou pire, nous pourrions aussi tomber dans une difficulté synonyme, c'est de croire que nous serions sauvés par nos œuvres bonnes. Il nous faut devenir parfaits, il nous faut travailler. Alors, attention, je joue un peu sur les mots, mais ça n'est pas ce que dit Paul. Il n'en est rien. Le propos de l'apôtre est bien différent car il met en lumière la transformation de notre être et de notre faire aussi, de notre agir, tel un processus essentiel en vue du salut. Oui, un processus contraire au fait de vivre pour soi-même, selon la chair, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Aussi, il faut bien donc distinguer nos erreurs, les péchés, si vous préférez, que nous pouvons commettre sur le parcours de notre vie chrétienne même. Il nous arrive encore de pécher, pour ceux qui appartenons au Seigneur. Il faut bien distinguer cela et le fait de ne pas être transformé par l'Esprit. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Même si effectivement, d'un côté comme de l'autre, le péché est parfois visible. Mais ça n'est pas pareil. Ce sont là deux réalités très différentes. Et Paul le voit et Paul l'infirme. En Galates, ici, Paul n'est pas en train de dire que si un jour, un chrétien, par exemple, commet un péché, reprenant l'expression, d'inconduite sexuelle, il couche avec une autre personne que sa femme, par exemple. Attention, ça n'est pas une invitation à le vivre. Mais il ne dit pas que cette personne qui commet cela s'en est alors foutue, désolé, hein, de son salut et qu'il serait définitivement voué à la damnation éternelle. Paul n'affirme pas cela. On serait tenté, nous, de le plaquer sur quelques personnes, en lui disant, lui, oh là là, franchement, son salut, je le vois pas. Soyons prudents. Mais Paul n'affirme pas cela. Non, Paul parle là, à propos de ceux qui vivent selon la chair, non pas de quelqu'un qui commet un péché qui peut nous brusquer, nous choquer, etc. Mais il parle de ceux qui continuent, et je dis bien qui continuent, dans ces péchés. Peu importe le péché, vous avez vu, il y a une longue liste, et franchement, il y a des trucs, c'est parfois presque malheureusement, je crois, le presque quotidien de quelques-uns parmi nous, si ce n'est beaucoup parmi nous. La colère, les dissensions, bref, des petites choses, mais nous continuons de pécher. Mais ici, je le répète, Paul parle là à propos de ceux qui sont encore à vivre selon la chair, de ceux qui continuent dans ces péchés, qui gardent activement une place dans leur vie pour ces pratiques, au lieu de demander humblement à l'Esprit de les aider, de les guider pour abandonner ces erreurs aux yeux de Dieu, qui devraient être pour eux aussi consciemment des erreurs. Autrement dit, au lieu de se laisser transformer progressivement par l'Esprit. C'est ça qu'il oppose ici. Il ne dit pas la personne qui commet un péché monstrueux. Ça n'est pas forcément ça. Et si le processus de transformation de nos vies est un processus essentiel en vue du salut, selon Paul. Ceci, et j'ai bien dit le mot, ceci est un processus, ça prend du temps. Ça peut même prendre beaucoup de temps. Mais c'est un processus conduit par l'Esprit. C'est un processus, non pas qui dépend uniquement de moi, mais qui dépend avant tout de Dieu. Aussi rien ne permet d'imaginer que nos œuvres, nos bonnes œuvres, nos béats, si vous préférez, participent à notre salut. Elles n'y contribuent pas. Nous sommes sauvés par l'œuvre de l'Esprit qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous transforme pour que nous pratiquions la justice. Pour que nous soyons, je garde des expressions bibliques, hein, pour que nous soyons saints, pour que nous portions du fruit. C'est peut-être plus accessible. Alors attention, je ne dis pas que Dieu fait tout. Il nous prend tel des marionnettes, maintenant tu es mon enfant, et puis joue avec nous. Il dit, lève la main, bon j'exagère. Ça n'est pas cela. Mais c'est Dieu qui agit. Il est le premier acteur, il est celui qui fait les choses, celui qui nous transforme. Mais nous avons quand même une part à jouer là-dedans. L'Esprit n'agit pas contre notre gré. Si je désire aller pécher, il ne va pas me prendre. Quoique, il peut se l'autoriser quand il le veut. Mais si je refuse de me laisser transformer, il va très souvent prendre patience avec moi, m'inviter à entendre ce qu'il veut pour moi. Il y a donc une responsabilité de ma part. Je ne suis pas l'acteur, Dieu est l'acteur de la transformation qu'il veut opérer en nous, mais il n'agit pas contre notre gré. Et c'est bien l'Esprit qui agit, l'Esprit de Dieu, ce don qui nous est fait à notre nouvelle naissance. Tout à l'heure, il a été témoignage d'une nouvelle naissance d'un de nos frères. Je suis très heureux parce que j'avais entendu parler de vous, et maintenant je vous connais, un peu. Mais c'est l'Esprit qui nous fait la grâce de nous transformer. Et tout à l'heure, je vous avais posé la question, celle qui pour moi était la question avec laquelle je voulais m'arrêter avec vous. Et à la question posée initialement, nous sommes en mesure de répondre que la transformation n'est pas une option, mais une exigence en vue du salut. Mais retenez quand même deux choses, parce qu'il est très facile de l'affirmer. Retenez bien que cette transformation, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, je le mets en lumière, est premièrement un processus. Ce n'est pas au jour de votre nouvelle naissance que vous êtes devenu parfait. Vous étiez avant quelqu'un de colérique et maintenant vous êtes devenu un agneau, mais doux. Je pense pour ceux qui le sont un peu, savent à quel point, et voilà, il y a encore chemin à faire. Pour ceux peut-être qui sont du genre un peu roublard, à toujours essayer de cacher la vérité parce que ça leur est pas facile de le dire, eh ben, ils cheminent encore. Oui, c'est premièrement un processus. Et deuxièmement, c'est aussi une grâce offerte, permise par l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est une grâce. Et c'est cela qui est très clair chez Paul. C'est que dans la nouvelle création, cette nouvelle créature que nous sommes, grâce à Dieu, ce processus de transformation sera accompli en nous, soyez-en sûrs. Alors nous, on peut peut-être freiner des quatre fers, mais ça va quand même s'accomplir, parce que c'est Dieu qui agit. Il prend patience, parfois il nous éprouve un peu, parce que peut-être sa patience doit passer à autre chose pour nous faire avancer, mais cette transformation sera accomplie en nous. Oui, dans la nouvelle création, l'œuvre de salut sera terminée. L'Esprit, aura pris entièrement possession de nous. Alors, pas au sens tel qu'on parfois on l'imagine, mais il aura parfaitement formé en nous l'image de Christ quand il sera de retour. Nous sommes dans ce processus-là. Nous apprenons, nous nous préparons à ce qui vient. Et au jour de ma mort, si le Seigneur ne revient pas avant, je ne serai pas encore parfait. Mais au jour où lui reviendra, nous serons parfaits. Parce qu'il l'aura amené à son aboutissement, ce processus-là. Et de reprendre Paul, d'ailleurs, dans ce qu'il dit en 1 Corinthiens 15, on prend toujours le même bonhomme, ailleurs, « Et Dieu, Dieu seul sera tout en tous. » C'est cela que ça veut dire. Avec Paul, on entend bien que l'œuvre de salut, l'œuvre du salut, ne s'arrête pas à l'œuvre initiale. C'est-à-dire au fait d'avoir été rendu juste par la foi en Jésus, au jour où, par exemple, nous venons devant l'Église, confesser notre foi et en même temps nous faire baptiser. Le salut ne se fait pas uniquement à ce moment-là. C'est toute une vie. C'est tout un processus. C'est une œuvre de grâce en nous. Le salut intègre aussi l'œuvre de transformation de l'Esprit en nous par ce qu'on appelle parfois aussi la sanctification. Bon, c'est encore un mot issu parfois de quelques-uns, mais gardez le mot transformation, je crois qu'il est tout aussi parlant. Et bien que cela peut être difficile encore pour nous de l'accepter, de se dire que ce qui nous sauve, ce n'est pas juste « j'ai confessé le nom de Jésus », combien l'ont fait et parfois n'ont pas été certainement, a priori, sauvés. C'est tout cette vie, ce processus, cette grâce de l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous amène à cheminer vers la perfection que Dieu veut pour nous. Il me semble important de résister à cette tentation parfois de séparer en me disant « nous sommes sauvés pour ça, pour cet instant-là », alors que c'est tout ce qui l'accompagne qui est l'œuvre de salut. En effet, ce qu'on appelle la justification, cet instant initial, ce moment où je suis happé par la foi, où Dieu me fait don de la foi et je le connais enfin, je désire m'attacher à lui et je commence. La justification, ce moment initial, est l'œuvre de transformation, ce temps continu, qui sera achevé au jour où il sera revenu, forme un tout. L'un et l'autre forment un tout. La justification de l'individu, c'est le fait d'être initialement déclaré juste. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Christ a pris ce qui quoi, tout ce qui peut s'accumuler et qui me sera certainement raconté un jour. me déclarer injuste. Lui, il l'a pris sur lui, et aujourd'hui, je n'ai plus de chef d'accusation qui repose sur moi, même si je reste coupable. Quelqu'un a endossé ce prix-là pour moi. Mais c'est aussi pour Paul le fait d'être acquitté au jugement dernier, et ce, sur la base de toute la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Christ a tout d'un coup, dans ma compréhension, tout pris, que quelque part, je peux croire que je suis justifié. Attention, hein. Entendez bien que Paul dit aussi que nous serons acquittés au jugement dernier sur la base de toute notre vie chrétienne. Non pas qu'elle sera parfaite, non pas que tout d'un coup, le poids de nos péchés avant de le connaître va être compensé par le poids de nos bonnes actions après. On ne va pas mettre nous dans une balance avec les bons et les mauvais de tout ce que nous avons vécu. Mais c'est juste que notre vie chrétienne sera en adéquation parce que Dieu aura agi en nous, parce que cette vie aura plu à Dieu. Parce qu'une telle vie aura été en accord avec les critères que Dieu lui-même désire voir à l'œuvre en nous. Et là encore, Paul l'exprime ailleurs, en 2 Corinthiens cette fois-ci, dans la deuxième épître qu'il a adressée aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, où il dit ceci, « Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière. » Quand on paraît en pleine lumière, en général, on voit tous les défauts. Hein. C'est, je ne sais pas si vous êtes carrossier, ou si vous êtes amateur d'art, de peinture. En général, une belle œuvre, on met pas mal de lumière dessus, histoire de bien la voir. Si c'est pour y voir les défauts, vous mettez une lumière puissante, rasante. Et comme ça, si c'est une carrosserie, j'aime beaucoup les voitures, bon bref. Mais le moindre imperfection, vous la verrez tout de suite. Il en est question là. Je relis Paul, je continue, car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière, rien ne sera caché, devant le tribunal du Christ, pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Eh bien, pour ce faire, et j'y reviens, pour qu'un verdict positif soit rendu devant le tribunal de Christ, pour reprendre Paul dans son expression, il est nécessaire qu'un processus soit à l'œuvre en nous. Non pas un processus qui va être pesé, mais un processus qui authentifiera le salut qui nous a été donné. C'est cela qu'il faut entendre. Oui, la justification initiale est une grâce extraordinaire. Ce don de la foi qui nous attache à Dieu. En ce sens qu'elle anticipe et qu'elle offre même une assurance que le verdict présent sera accompagné d'un verdict final. Pardon, excusez-moi pour vos oreilles, mais quand nous avons ce don initial, nous avons la ferme assurance d'avoir la conclusion. Donc ce qui se passe entre les deux, ce processus-là, nous est garanti parce que c'est Dieu qui va agir. Et non pas parce que moi je vais essayer d'y ajouter maintes bonnes actions pour essayer d'amener un plus de poids dans la bonne balance. Ça n'est pas ça. Là, c'est tout d'un coup regarder à beaucoup de religions païennes d'autrefois, et même parfois à des religions autres que chrétiennes actuelles, qui croient que les bonnes œuvres vont nous amener à une forme de salut. Je répète ce que je viens de dire, mais c'est important. Saisissez-le. Cette œuvre de foi en nous, cette justification initiale, le fait d'être attaché parce que je connais enfin Dieu, il m'a fait don de la foi, est une grâce bien sûr extraordinaire, parce qu'elle anticipe et qu'elle offre même l'assurance que le verdict présent, je me sais sauvé, sera accompagné assurément du verdict final similaire. Mais si c'est le cas, c'est parce que ce verdict initial débute quelque chose. Débute l'œuvre de transformation de l'esprit dans l'individu, en nous. Et c'est cette œuvre, l'ensemble de cette œuvre, ce temps initial, ce processus, qui permettra le verdict final, de faire correspondre, car c'est un tout. Et ce tout-là, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas moi qui en fais quelque chose. Je vous ai dit, on a juste la responsabilité de le laisser agir. On peut le freiner, mais on ne peut pas lui faire changer de chemin. Ça, vous n'en avez pas la force. Hein. Même les plus têtus parmi nous ne peuvent pas, quelque part, contrer les plans de Dieu pour nous. Vous pouvez essayer. Hein. Je garantis votre insuccès. Croyez-moi. Autrement dit, la nécessité de la transformation ne remet pas en question la grâce. Le fait que nous sommes invités à porter du fruit ne remet pas en question l'œuvre de grâce en nous. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut et grâce du début à la fin. Point barre. Ça ne se négocie pas. Dieu l'a décrété ainsi, Dieu l'a planifié ainsi, Dieu œuvre ainsi. On ne peut pas modifier cela. La grâce initiale est tout aussi importante que la grâce continuelle. Autrement dit, la justification, ce temps où Dieu m'attache à son peuple, et tout ce processus qui m'invite à vivre dans la nouvelle création, dans ce que signifie ce peuple en devenir, et qui viendra à sa perfection quand il sera là. Tout cela, quelque part, est un tout, et tout aussi important l'un que l'autre, parce que cette grâce finale du verdict sera rendue au jugement dernier d'une manière sûre et certaine, parce que c'est Dieu qui l'a déjà instauré. Nous ne sommes pas acteurs de cela, d'une certaine manière. Nous sommes responsables de ne pas freiner l'action de Dieu en nous, globalement. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais, alors attention, c'est un mais positif. Il y a plus. Je ne vais pas dire mais, attention, j'ai dit un truc, mais il y a aussi une petite forme de... Non. Il y a plus que cela. Et ça, j'ai aimé découvrir cela en allant lire un auteur. Un homme de foi. Si pour ne pas minimiser l'importance de la grâce initiale, il faut voir l'œuvre du salut comme un tout intégré et unifié, ce que je tiens vraiment à affirmer encore ce matin, il faut également revoir ce que signifiait le mot grâce à l'époque où Paul en parle. Là, quand il s'adresse aux Galates notamment. Quand Paul parle de la grâce, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que les gens, quand ils l'entendent, à travers la lettre qu'il leur a écrite, comprennent quand ils entendent que Paul leur parle de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Le fait est que la grâce, bien sûr, déjà à cette époque-là, était un mot bien connu, et courant en plus à l'époque. Et pas d'ailleurs que dans les milieux chrétiens. Paul s'adresse à des païens devenus chrétiens, dans la langue grecque, parce que c'est leur langue commune. Mais les gens autour connaissent tout aussi bien cette langue. Paul ne parle pas en patois de Canaan, si vous préférez. Quand il s'adresse à ses chrétiens, il leur parle dans leur langue de tous les jours. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, si Paul était là, il dirait « wesh gros », etc. Bon, je suis complètement has-been, de toute façon, vous me corrigerez. Mais Paul était plutôt de ce niveau-là. Il n'était pas en train de faire de la haute théologie. Quoi qu'il faisait de la haute théologie, mais accessible. Il s'adressait à des frères et sœurs. Il ne s'adressait pas à quelques érudits, des sages, etc. Donc, qu'est-ce qu'il leur disait alors? Sachez que, et j'espère que vous allez le recevoir et que ça va vous être un bénéfice pour vous, mais dans la culture de l'époque, une grâce, ce n'était pas simplement un cadeau à recevoir. C'est souvent ce que nous entendons en premier lieu, on s'accorde là-dessus. Une grâce, si on la définissait aujourd'hui, c'est le cadeau que je reçois. Bon, mais c'est plus que cela. Quand je vous ai dit « mais », il y a un plus. Écoutez bien le plus, ce que signifie la grâce au temps où Paul l'exprime. C'est un cadeau à utiliser. Illustration, très bête et je continue après mon propos, mais pour ceux qui ont eu occasion de vivre un mariage, surtout le leur, très souvent, dans les diverses traditions, nous recevons des cadeaux de mariage. Il y a de magnifiques cadeaux, parfois vous faites même une liste, donc les cadeaux qui sont sur la liste en général... Vous savez que vous allez pouvoir les utiliser, vous les avez souhaités, ils comblent parfois les manques qu'il y avait chez vous. Et puis il y a ces autres cadeaux, ces cadeaux que vous n'avez pas mis sur la liste, ces cadeaux qu'a priori vous n'avez pas forcément désirés, et dont vous ne savez que faire. J'en ai encore un ou deux à la maison. Mes enfants savent quoi en faire. Bon, tant mieux, il y a toujours quelque chose. Mais il y a parfois des cadeaux, dans ce genre de situation, on le prend, on se dit, oula, on le met derrière, et puis on se dit, si on peut le refourguer à quelqu'un bientôt, tant mieux. Puis je crois parfois, je ne sais pas si c'est une tradition, mais il y a des cadeaux qui passent de mariage en mariage. Du moins, ça c'est l'humour, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais vous savez, tiens, un mariage, on est bientôt invité. J'espère que ça ne vient pas d'eux. Tiens, on va le mettre. Voilà, comme ça, il circule, et puis il va faire maintes mariages, et puis des générations après des générations, ce même cadeau circule. Bon bref, j'exagère. Je reviens au mot grâce, voilà, après avoir illustré. La grâce, quand Paul en parle, ça n'est pas juste le cadeau que je reçois. C'est le cadeau qui est à utiliser. C'est justement l'utilisation qu'on faisait d'une grâce, du cadeau, qui démontrait la valeur qu'on l'on attribuait à cette grâce. Ça, de l'avoir compris, ça m'a beaucoup aidé. Je reprends une autre illustration. Vous allez m'entendre un petit peu avec mes accents et mes passions. Si j'offre à l'un d'entre vous, bon, il n'y en a pas beaucoup à qui je pourrais vraiment faire plaisir ainsi, mais une belle moto. Bon, il y en a quelques-uns qui réagissent, mais bon, y a-t-il beaucoup de motards? J'aimerais bien, mais laissons tomber. Si j'offre à l'un d'entre vous une belle moto, une moto qui pour moi va coûter, une moto que je trouve magnifique, mais que à l'un d'entre vous à qui je l'ai offert, l'accepte et la range au fond d'un vieux garage, sous une bâche, dans un hangar, d'une parce qu'il n'a pas le permis et que franchement la moto est lui. Bon, ça veut dire, je serais le fautif parce que je ne sais pas quoi offrir à ce moment-là, mais regardons du côté de la personne qui reçoit cette belle moto. Ce cadeau-là, il ne l'estime pas à la valeur que moi j'ai voulu lui donner. J'ai mis beaucoup. Je me suis dit, je lui offre vraiment quelque chose de beau. Et cette personne-là la met dans un coin pour qu'elle prenne la poussière et surtout qu'elle ne roule jamais. Bon, normalement, la vertu d'une moto, entre guillemets, c'est de rouler. Hein. C'est comme une voiture. C'est avant tout pour nous aider à nous déplacer, à nous transporter. Après, la moto, il y a plein de plus. Là où la voiture, il n'y en a pas. Désolé. Je vous taquine. Mais cette personne, cet ami qui, par exemple, reçoit cela, par la manière dont il le reçoit, par la manière plus encore dont il va l'utiliser, démontre là la valeur qu'il attribue à cette grâce, à ce cadeau. Et quand nous venons à ne pas utiliser ce cadeau, cette grâce, nous venons à démontrer que ce cadeau, cette grâce, n'a pour nous pas beaucoup de valeur, si ce n'est aucune. Alors, j'arrête avec les illustrations, mais je pense que vous l'avez saisi. Autrement dit, et je reviens à Paul, dans la perspective de la grâce que Dieu nous fait, des grâces que Dieu nous fait même. Paul explicite cela d'ailleurs à plusieurs reprises, dans ses épîtres. Je reprends d'ailleurs la deuxième épître aux Corinthiens que j'ai déjà citée tout à l'heure, quelques versets plus loin, toujours chapitre 5, verset 15 cette fois-ci, où il écrit à propos de Jésus que Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Et quand il dit que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, il parle « ne vivent plus selon la chair ». C'est très synonyme. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quelque part, autrement dit, cette grâce doit opérer un changement chez la personne qui la reçoit. Quelque part, cette grâce qui est donnée doit amener à être vécue pour vivre la transformation. C'est ce que Paul dit là. Hein. Alors certes, je le redis autrement, mais Paul souligne ici qu'il y a donc un lien profond et indéfectible entre la grâce et la réponse que nous apportons à cette grâce. Quand elle est vraiment reçue, il y a réponse, de toute façon. L'un ne va pas et ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, quand nous entendons donc parler d'un don gratuit, à tout niveau, hein, je ne parle pas uniquement dans notre vie de foi, mais il vous est parfois fait des cadeaux, même parfois vous avez des coups de fil qui vous disent « Allô ?» Je suis très heureux de vous annoncer que vous avez reçu un magnifique cadeau. Alors bien sûr, il faut aller voir, il faut aller acheter un énorme canapé pour avoir le droit au deuxième canapé, par exemple. Je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai vu des amis qui sont passés par là, pensant avoir fait certainement une très belle affaire. Bon, bref. Mais quand nous entendons parler aujourd'hui encore d'un don gratuit, nous comprenons très souvent, premièrement, qu'il n'y a aucune obligation de notre part. On me le donne, j'en fais ce que je veux. Hein. C'est à peu près la logique. Mais quelque chose est gratuit, quand quelque chose nous est gratuit en tout cas, nous le pensons que, en gros, ça ne me coûte rien. Ça ne m'engage pas. C'est à moi, après j'en fais ce que je veux. S'il me plaît, je le garde. S'il ne me plaît pas, je le jette. Bref, si je ne sais pas quoi en faire, je le mets en haut, dans un placard, bon bref. Mais quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qu'on aurait juste à recevoir. Voilà très souvent la perspective que nous avons pour plein de choses, y compris peut-être avec Dieu. Mais pour Paul, et je reviens à lui, à ce cher Paul, qui nous dérange un peu aux entournures quand même, mais il n'a pas tort. Ce n'est pas cela, le don gratuit. Dans la perspective divine, cette grâce, certes c'est gratuit, mais c'est surtout le don que nous n'avons pas mérité. C'est ça, hein, le don gratuit de Dieu. C'est ce don que je n'ai pas mérité. Parce que parfois, voilà, quand on est petits-enfants, on espère qu'avec les bonnes notes qu'on ramène, ça dépend des familles. Nos parents vont peut-être faire un petit quelque chose. Or, quand il n'y a pas les bonnes notes, bon, ben, on sait que l'a pas mérité. Mais ici, c'est un don que nous n'avons pas mérité. Un don où Dieu, quelque part, n'est pas obligé. Ce n'est pas parce que nous sommes ceci ou cela qu'il se doit de nous faire ce don-là. Il n'en est rien. Le don gratuit parle du fait que Dieu ne nous le doit pas, tout simplement. Et ce n'est pas tout à fait la notion de gratuité ici qui apparaît. La grâce de Dieu n'est pas tout à fait dans la logique que nous aimerions lui apposer. Mais, alors il y a toujours des mais, hein. Le but est de nuancer ou d'affiner. Pour Paul, recevoir ce don gratuit, je reste quand même sur le mot, crée néanmoins une relation d'obligation. Dieu, dans la grâce qu'il veut nous faire, n'est pas obligé de nous faire grâce. Sinon, ça n'est plus une grâce. Lui n'est pas obligé vis-à-vis de nous, mais nous, quand nous la recevons, nous sommes obligés vis-à-vis de lui. Et c'est là toute la différence. Il y a un profond déséquilibre, quelque part, dans cette grâce, mais un déséquilibre qui est juste. J'espère que vous m'avez suivi dans ce que j'ai essayé de dire là. Mais je le redis encore autrement. Pour Paul, recevoir ce don gratuit crée néanmoins une relation d'obligation, de gratitude même, je préfère dire, voire de réciprocité entre le donneur et le receveur. Nous sommes au bénéfice de la grâce, et quelque part, puisque cette grâce, si nous la recevons pour ce qu'elle est, que nous en apprécions vraiment la valeur, et encore, sommes-nous capables d'apprécier totalement, intégralement, parfaitement la valeur de cette grâce? Nous la découvrons plus encore à chaque fois. Elle ne peut pas être sans conséquence dans notre relation à Dieu. Quelque part, cette conséquence, c'est qu'il va y avoir un retour. Nous allons rendre grâce. C'est de là que ça vient, tout simplement. Quelque part, nous voulons dire notre amour de Dieu et nous le manifestons de mille manières. Selon en plus les dons que Dieu nous a faits. Bref, il y a là, me semble-t-il, vraiment quelque chose de fondamental à comprendre pour saisir le lien entre la grâce et la vie de disciple. La grâce, et cet autre mot qui est synonyme, le discipula, et c'est tombé ce mot-là si vous ne l'aimez pas, mais entre même plus simplement entre la grâce et la vie chrétienne. La grâce de Dieu est un acte initial. Oui, la grâce de Dieu est cet acte initial qui crée une relation et demande une réponse appropriée. Or, bien sûr, il n'est surtout pas question pour nous de rembourser Dieu. Ce serait là encore se tromper et être très prétentieux. Dieu, on ne peut pas le rembourser. On ne peut pas même lui offrir un cadeau proportionnel à ce que nous avons reçu. Mais nous sommes appelés à vivre comme des personnes qui ne peuvent jamais donner assez. Comme des personnes qui ne pourront jamais dire « j'ai donné suffisamment à Dieu ». Et ça ne signifie pas, par exemple, que vous devez vous débarrasser de tous vos biens et le donner à l'Église. Ce serait sectaire, là. Mais rendre grâce, c'est quelque part savoir que nous ne pourrons jamais rendre exactement ce que Dieu nous a offert. Mais nous nous efforçons de lui faire plaisir. Nous voulons lui montrer à quel point nous reconnaissons la grâce qu'il nous a faite. Et nous lui rendons grâce par notre louange, par l'amour aussi que nous avons les uns pour les autres. Ça aussi, c'est rendre grâce. Nous le faisons aussi, et ça n'est pas inopportun non plus, par une partie des richesses que nous lui donnons. Il faut à la fois qu'elle nous coûte, mais pas qu'elle nous dépossède complètement. Alors, parfois, on préfère parler de la dîme, mais je la comprends comme ça. Oui, nous sommes appelés à vivre comme des personnes qui ne pourront jamais donner assez, comme des personnes qui ne pourront jamais dire « j'ai donné suffisamment à Dieu, maintenant j'ai réglé ma dette vis-à-vis de lui, et maintenant je suis libre de faire ce que je veux à nouveau ». Là, je pense qu'on a complètement zappé le truc, hein. Mais nous sommes comme des personnes qui ne pourront jamais dire « j'ai rendu à Dieu ce qu'il m'a donné, je peux donc commencer à vivre pour moi-même maintenant ». C'est pas ça la grâce. Non, la grâce incommensurable de Dieu nous pousse à nous offrir à lui sans limite. Et d'ailleurs, Paul exprime encore, je vais le citer une dernière fois, puisque j'en arrive à la fin de ma parole fraternelle pour vous. Il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » ça revient à le dire, dit d'une autre manière, dit avec Paul, par Paul même plutôt. Et là, bon, on l'entend aussi, et je reviens plutôt dans la première épître aux Corinthiens cette fois, chapitre 6, verset 20, pour ceux qui aiment tout noter. Oui, et j'en viens à conclure sur cette simple parole, mais Christ est mort pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, que nous ne vivions plus selon la chair, si vous préférez, pour reprendre l'expression, mais que je trouve un petit peu démodée, pas tout à fait comprise. Mais que nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous a libérés de notre propre servitude, afin de nous attacher à lui, et de nous préparer aussi au royaume qui vient. Ce processus me prépare à déjà goûter à ce royaume qui vient, qui est déjà là, et en vue de la perfection qui me sera donnée, de ce royaume parfait qui sera là. Voilà qu'est l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de la grâce de Dieu. Ça n'est ni une grâce à bon marché, ni une grâce qui, quelque part, attend une compensation. Parce que Dieu est pleinement l'auteur de cette grâce. Amen. Prenons le temps de nous incliner un instant. Seigneur, qu'il est merveilleux d'entendre ta parole, d'entendre la perfection de ton œuvre de salut qui nous est offerte, qui nous est pleinement offerte. Parce que ton Fils a accompli à la croix et parce que ton Esprit veut continuer d'accomplir en nous. Seigneur, merci parce que nous sommes incapables du début à la fin de répondre à ce que tu veux opérer en nous. Mais c'est toi qui l'accomplis. C'est toi qui l'as accompli une fois pour toutes par ce que ton Fils a fait pour nous. Et c'est toi aujourd'hui qui continues de l'accomplir par la personne de ton Esprit qui nous est offerte par grâce. Seigneur, merci parce que tu nous invites à être transformés, à devenir plus conformes à l'être que tu désires que nous soyons. Non pas en étant une marionnette, mais en nous invitant à être responsables de cette transformation que tu veux faire en nous. Seigneur, merci parce que en cela tu nous aimes et tu nous respectes profondément. Et tu nous aimes parce que tu veux nous amener à cette perfection qui nous invitera à regarder en arrière sans regretter quoi que ce soit. Là où peut-être aujourd'hui encore, dans ce temps de cette transformation, nous hésitons parfois à nous laisser en transformer. Parce que parfois des choses encore qui nous rattachent peuvent nous laisser comme des formes de nostalgie, mais des nostalgies qui ne sont pas justes. Ô Seigneur, oui, merci, parce que cette grâce, tu nous la donnes pleinement. Nous ne pouvons y contribuer, nous ne sommes juste responsables de l'accepter et de t'écouter plus attentivement. Seigneur, merci parce que tu le fais pour chacun d'entre nous, mais cette grâce aussi s'accomplit dans ton Église. Et Seigneur, que tu puisses encore continuer de l'accomplir dans ton Église, ici même à Antony, comme dans toutes les communautés qui, quelque part, forment ton peuple entier. Seigneur, oui, aide-nous à être tes créatures. Ces hommes et ces femmes nés de nouveau, semblables à ton Fils, capables de porter, être les témoins de ta lumière, de ta grâce, de ton amour dans ce monde. Oui, Seigneur, que tu puisses continuer d'accomplir ce changement, cette transformation en nous. Que tu puisses enlever aussi nos résistances qui parfois nous amènent à freiner ce que tu veux faire en nous. Donne-nous de savoir encore goûter au prix de ta grâce. Donne-nous de savoir apprécier plus encore ce que tu accomplis et ce que tu nous as offert, Seigneur. Oui, Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Par l'Esprit Saint que tu nous as offert, à toi Père. Amen.